Est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appellerait Gary Chapman?
Je ne sais pas.
Pourtant, c'est un vieux monsieur. Hein. Enfin, vieux monsieur. Avec tous les respects que j'ai pour les uns et les autres. Mais aujourd'hui, il a plus de 75 ans. 75 ans, ça a l'avantage d'avoir un peu d'expérience, non? Et cet homme, en fait, c'est un pasteur. C'est aussi un conseiller conjugal. Il a travaillé des années et des années dans ce travail du conseil conjugal. Il a fait dans le monde entier des conférences spécialisées sur le mariage, sur la famille, etc. Il a écrit de nombreux livres. Et notamment, il a écrit un livre qu'il a fait mondialement connaître. C'est ce qu'on appelle un best-seller, donc un des meilleurs livres vendus, qui s'appelle « Les langages de l'amour ». Alors cet homme, fort de sa connaissance biblique, fort de son expérience, de tout ce qu'il a pu lire, entendre, écouter, observer, il a énoncé 5 moyens, ce qu'on appelle les 5 moyens d'exprimer son amour dans un langage que l'autre comprend. Au travers de ces cinq manières, les paroles valorisantes, le contact physique affectif, le temps passé ensemble, les cadeaux bien choisis, les services rendus, ce sont 5 façons, on va dire, universelles d'exprimer l'amour. Alors chacun peut, c'est pour ça que je vous ai mis le temps de le marquer, comme ça vous pouvez le prendre à la maison et puis réfléchir là-dessus. Et c'est vrai que même si on n'est pas forcément sensible à chaque langage de l'amour, notre cœur ne reste pas indifférent à ces langages de l'amour. Alors, ce qui est quand même intéressant, on l'a dit dans les chants, c'est que Dieu est amour. Et je me suis dit, si Dieu est amour, et que quelques êtres humains, avec un peu d'intelligence, ont réussi à trouver 5 langages de l'amour, on va mettre Dieu au défi. Et on va voir si Dieu, lui, il utilise ces 5 langages de l'amour. Et ce soir, on ne va pas avoir le temps de voir les 5. Mais en tout cas, le premier, ce soir, va concerner les paroles valorisantes. Alors, comment connaître Dieu? Dieu est esprit? Dieu est invisible? Aurais-je l'audace de vous dire, mais qui ici a déjà vu Dieu? Mais Dieu s'est fait connaître au travers d'un personnage mondialement connu lui aussi, en tout cas bien plus que Gary Chapman. Il s'appelle comment cet homme? C'est Jésus. Jésus. Jésus est Dieu incarné, comme on l'a dit mercredi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus n'est pas un homme mieux que les autres. Jésus n'est pas un saint parmi les autres. Jésus n'est pas seulement un prophète plus inspiré que les autres. Jésus était parfaitement homme. Il avait un corps tout à fait normal, même basique. Vraiment, c'était le standard. D'ailleurs, quand les gens le regardaient, il n'avait rien, ni beauté, ni éclat, nous dit la Bible. C'était vraiment un gars normal, classique. Il n'avait rien qui attirait l'œil. Par contre, dès qu'on commence à s'intéresser à la personnalité, parce qu'on sait que qu'est-ce qui fait la valeur d'une personne? Est-ce son intérieur ou son extérieur? C'est évidemment son être intérieur, c'est ça qui fait la valeur, c'est ça qui fait la personnalité d'un personnage. Et bien quand on commence à méditer, à réfléchir sur l'intériorité de Jésus, sur ce qui sort de Jésus, alors c'est là que toute sa personnalité n'est pas seulement une personnalité humaine, mais lui-même révèle toute la personnalité de Dieu. Alors, ce soir, on va voir si effectivement, est-ce que Jésus utiliser ce langage de l'amour qui est celui des paroles valorisantes. Alors qu'est-ce que c'est que les paroles valorisantes? Oh, c'est pas compliqué. Et je crois qu'on a tous vécu ça. Ce sont ces paroles d'encouragement. Ce sont ces paroles constructives. Ce sont ces paroles qui nous stimulent. Ce sont ces paroles qui font chaud au cœur. On a pu aussi connaître l'inverse, comme quoi avec une parole on a pu être cassé, comme avec une parole on a pu être déstabilisé. Combien à force de paroles qu'on a pu entendre, on s'est même forgé une image de nous-mêmes. Combien de fois est-ce que j'ai entendu des gens me dire d'un certain âge, mais moi j'ai toujours entendu dire que j'étais un nul. Il n'a jamais pu se projeter autrement dans la vie que au travers de ses paroles. Alors, pour ceux qui ont la Bible, je vous invite à ouvrir l'évangile de Marc. On fera essentiellement deux lectures ce soir. Je citerai une autre situation. Mais je vous invite à lire, pour ceux qui le veulent, Marc chapitre 15. Chapitre 14, pardonnez-moi. Marc chapitre 14. On va lire les versets 3 à 9. Marc chapitre 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum pur de grand prix. Et ayant rompu le vase pour l'ouvrir, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Mais à quoi bon perdre ce parfum, voyons? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et puis les donner aux pauvres. Sous-entendu, ça aurait été utile. Et ils s'irritaient contre cette femme. On comprend que la conversation s'en est pas arrêtée là et qu'il commence à y avoir ces petites paroles amères, ces petits pics bien placés. On reste poli, mais... Mais Jésus dit, laissez-la. Écoutez cette phrase comme elle est incroyable. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Mais on voit là le contraste entre des hommes bien pensants. C'était des disciples, hein? Des gens qui croyaient, des gens qui suivaient Jésus, des gens qui certainement avaient une bonne morale. Oh oui, il y en a plein des gens comme ça. Et qui sont en même temps capables d'avoir de ces paroles remplies d'irritation. Vous en connaissez pas autour de vous? Je vous demande pas de répondre. Mais je suis sûr qu'on en a déjà rencontré. De ces gens qui, oh oui, ils vont à l'église, ils vont à la messe, ils vont même à l'église évangélique, ils prient. Mais dans leur bouche, il n'y a pas ce langage de l'amour. Il n'y a pas ce langage de paroles valorisantes. Il n'y a pas ce langage de paroles qui veillent à ne pas blesser. Et quand Jésus voit ses disciples parler, s'échauffer, parler entre eux, s'irriter et avoir ces petits sarcasmes, ces moqueries, ces chuchotements. On imagine cette femme qui est à côté, qui veut bien faire dans son impuissance. Parce que on connaît un peu l'histoire de cette femme. En fait, c'est une femme prostituée qui s'est approchée de Jésus. Et pas facile dans un contexte historique comme ça, elle, une femme de mauvaise vie, s'approcher d'un homme qui était considéré comme un prophète. À ce moment-là, c'était pas... comme les gens n'arrivaient pas à savoir qui vraiment était Jésus, mais on savait que c'était un maître, un rabbi. Et cette femme, elle lui offre quelque chose qui vient de son cœur, ce qui lui a de la valeur. Elle a presque pas de mots, mais elle exprime tel qu'elle peut. Et là, il y a ces paroles qui viennent irriter, ces paroles qui viennent chatouiller, ces paroles qui viennent piquer. Et là, une parole simple de Jésus, cette parole valorisante, cette parole pleine d'enthousiasme, cette parole pleine de douceur, cette parole pleine de délicatesse. Mais pourquoi lui faites-vous de la peine? Pourquoi cherchez-vous à l'attrister? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes là avec ce langage qui au lieu de l'encourager, de la féliciter? Pourquoi est-ce que vous êtes là encore à avoir ces mots qui piquent, ces mots blessants, peut-être même des mots insultants? Et là, la question ne se pose plus seulement pour eux, il se pose même pour nous. Parce que la parole de Dieu nous avertit que nous rendrons compte à Dieu pour toutes nos paroles. Que personne ne s'illusionne sur cette terre. Ce n'est pas nos apparences religieuses qui vont amadouer Dieu. Ce n'est pas notre professionnalisme à tromper les regards des autres qui vont tromper Dieu. Dieu est à l'écoute de nos paroles. Dieu est à l'écoute de nos remarques. Dieu est à l'écoute de nos manières dont nous parlons des autres. Même quand nous sommes tout seuls. D'ailleurs, il y a même un verset qui dit « Fais attention à ce que tu murmures en cachette, parce que tout ce que tu diras en secret sera dévoilé et dit au monde entier. » Oh. Comme quoi il vaut mieux toujours avoir un cœur pur, net et propre, pour être bien sûr que tout ce qui en sort soit bon, plutôt que d'essayer d'avoir des belles façades et de dire en secret médisance, calomnie, méchanceté. Parce que Dieu nous dit qu'un jour tout sera dévoilé, tout. Ah oui, tant qu'on est sur cette terre, on peut essayer de tromper. Ah, ça c'est sûr. Pas vu, pas pris. Mais Dieu nous dit que tôt ou tard, notre vie, elle sera ouverte comme un livre. Tout le monde pourra voir. Même ce qui s'est fait en secret, ce sera dévoilé en plein jour. Dieu ne dit pas ça pour nous faire peur. Il ne veut pas nous prendre comme des gamins pris sur le fait. Il veut juste nous responsabiliser et nous dire arrêtons. Arrêtons de nous mentir nous-mêmes. Qui sommes-nous pour nous cacher du regard de Dieu? Où est-ce que vous voulez vous cacher? Croyez-vous qu'il y a une chose qui échappe à l'esprit de Dieu? Non. Mais heureusement, l'évangile, au travers de Jésus, nous montre que Dieu n'est pas un Dieu fouettard, un Dieu méchant, un Dieu qui va nous condamner, un Dieu qui va prendre une grosse voix et qui va nous rouspiller. Pas du tout. Au contraire, chaque fois que l'on voit Jésus, il a une délicatesse pour les âmes, il a une finesse. Il n'est pas celui qui condamne, il est celui qui relève, ni dans cette situation. On voit bien que dans cette histoire, au contraire, Jésus n'est pas là pour abattre, pour étouffer la bonne volonté de cette femme. Au contraire, il l'encourage. Il l'encourage. Mes bien-aimés, amis, sachez que tout ce que vous faites pour le Seigneur, même si vous vous sentez impuissant, même si vous vous sentez incapable, le Seigneur sera toujours là pour vous encourager à mieux faire. Il y a un verset qui dit que Dieu n'éteint pas le lumignon, la petite bougie qui fume à peine. Au contraire, il est là pour lui redonner vie. Et peut-être que dans votre cœur, c'est mort depuis longtemps. Il y a quelque chose qui est éteint. La seule chose que Dieu nous demande de faire, c'est de remettre notre foi en lui. Et lui nous redonnera. Il est là, un Dieu d'encouragement. Il est un Dieu qui stimule. Il est un Dieu qui n'est pas là pour écraser, pour condamner. Mais il est là, un Dieu pour relever. Il y a une autre rencontre, comme ça, entre Jésus et une autre femme. Cette femme, elle est complètement perdue à tout niveau. Si vous voulez le lire, c'est en Jean chapitre 4. Cette femme, religieusement, elle est complètement perdue. Elle vient vers Jésus. « Oh, mais vous vous dites qu'il faut adorer là. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut adorer là. » Et si elle était au 21e siècle, elle aurait encore continué ça à sa liste. Et il y en a qui disent qu'il faut adorer par là, et d'autres par là, et d'autres par là. Aujourd'hui, avec toutes les religions, pourtant tout ça c'est pareil, c'est Dieu, non ? Oh, quelle confusion, n'est-ce pas? Et plus on va avancer dans le monde et dans les temps, et plus il y aura de la confusion. Cette femme n'avait pas que ce problème-là. Cette femme était aussi perdue émotionnellement. Elle avait déjà eu 4 maris. L'homme avec qui elle vivait, c'était pas son mari. Situation de concubinage, là aussi une situation bien moderne. Mais ce qui est incroyable quand on prend le temps de lire cette histoire, c'est que Jésus ne lui fait aucun reproche. Sur son point de vue spirituel, il n'est pas en train de lui dire « Oh, tu sais, ça c'est les vrais religieux, ça c'est les vrais croyants, tu sais, c'est dans cette église qu'il faut aller, parce que là, vraiment, eux, c'est des vrais. Hein. Les autres, tu sais, c'est des menteurs. Oh, les autres, ils ont fait ça. Oh, si tu connais l'histoire, et tu sais... » Jésus, sur le point de vue spirituel, n'est pas en train de ramener l'homme à la bassesse humaine. Il dit, tu sais, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà des paroles valorisantes, non pas des paroles qui nous ramènent à notre bassesse, à nos incompréhensions, mais Dieu, Jésus, au travers de sa bouche, nous révèle qu'on a un Dieu qui veut élever notre âme. Détachons nos yeux de nos bassesses, de nos calculs humains, de nos religieux, de nos repères religieux ou politiques. De temps en temps, on se demande si c'est pas la même chose. Mais Dieu nous amène à prendre de la hauteur. De la hauteur. Soyons des croyants, soyez des croyants en esprit, en vérité. On n'est pas là encore en train de formater des gens, mais d'élever l'âme, d'élever l'âme. Et quand cette femme est dans sa situation, oh Jésus, là aussi, n'était en train de lui dire, oh tu vois, tu te dérives religieuse, et puis regarde ta vie de famille, regarde comment tu te comportes, regarde avec tous tes amants que tu as eus, tu crois que tu peux être sauvé comme ça? Nulle part on voit ce genre de propos. Nulle part. Nulle part. Jésus n'est jamais celui qui est là pour abaisser, mais toujours pour élever. Jamais Jésus n'est là pour écraser l'homme, écraser lui-même par ses propres soucis, par son propre péché, par ses propres incompréhensions. Mais toujours Jésus est là pour stimuler, pour élever, pour libérer. Pour apporter non pas des questions, des troubles davantage, mais au contraire des solutions, une perspective, une porte ouverte, un avenir, de l'espérance. Jésus n'est jamais là avec une parole qui appesantit l'esprit, mais il veut toujours au contraire que l'homme et la femme puissent trouver là une issue qui élève son âme. Qui lui apporte la vie, qui lui apporte des réponses, qui lui apporte la joie, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et ça, ce n'est pas dans des formules tout faites, mais ce sont dans des paroles qui valorisent, qui nous redonnent de la valeur et qui redonnent de la vraie valeur à ce qui vaut le coup. Ne croyez pas que au travers de cette description, Jésus soit celui qui occulte la vérité ou qui fermerait les yeux sur ce qui ne va pas. Non. D'ailleurs, je vous invite à tourner quelques pages de votre Bible pour aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Et là, on va lire un récit un peu plus long. Luc, chapitre 24, là aussi, des hommes qui ont leur croyance, leur identité. D'ailleurs, ils croyaient eux en Jésus. Il n'est plus question là de cette femme qui est un peu perdue, qui ne sait pas quoi en penser. Il n'est pas question de cette femme prostituée qui, effectivement, probablement, n'avait pas vraiment une vie religieuse. Là, il est vraiment parlé de deux personnes qui croient en Jésus, sincèrement. Dans leur cœur, ils croient en Jésus, mais comme on va le réaliser, ils croient en Jésus, ils s'attendaient à lui, mais ils n'ont pas la vie de joie qu'ils devraient avoir. C'est ça qui est étonnant. Parce que la Bible nous dit que si on a Jésus, il y a une joie, il y a une paix, il y a une allégresse, il y a quelque chose de vivant. Et là, on va se retrouver avec des croyants en Jésus, mais qui sont tout tristes. Vous y êtes ? Luc, chapitre 24, verset 13. Voici, ce même jour, deux disciples allait à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, allez, je vous fais la traduction, d'à peu près 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. On va comprendre pourquoi dans quelques instants. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Bah, ce qui est arrivé !» au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs les religieux et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Ah, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses telles que les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre après dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un l'autre « Mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliqua les Écritures ? » Oh, se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon !» Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Alléluia ! Et là, on a encore une de ces situations, non pas où Jésus a une langue de bois, non, c'est vrai que avoir communiqué le véritable amour, notre amour à l'égard de quelqu'un en communiquant des paroles valorisantes, cela ne suffit pas qu'on ferme les yeux sur ce qui est mal, cela ne suffit pas non plus à faire de l'éloge sur ce qui n'a pas lieu d'être. Ça ne veut pas non plus dire accepter, tolérer le péché. Ça ne veut pas dire non plus à user de mensonges ou de séduction ou de tromperie. Non, jamais. Jésus, quand il parle à quelqu'un et quand il voit des croyants qui ont ce cœur dur à croire l'évangile, alors il leur dit réellement, mais vous êtes vraiment sans intelligence. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi incrédule? Pourquoi est-ce que vous avez du mal à croire ce qui est réellement écrit? Pourquoi vous ne voulez pas accepter les grâces? Pourquoi? Et il dit vraiment, vous êtes incrédule, vous manquez d'intelligence. Vous avez besoin là de comprendre les choses comme elles sont écrites. Mais ne s'arrête pas seulement, Jésus, à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Mais il nous donne aussi les moyens de progresser. Et c'est ça qui est beau avec Jésus. C'est que même si nous avons des difficultés dans notre vie, même s'il y a des blocages, même si nous ne comprenons pas tout, le Seigneur n'est pas celui qui va nous humilier, qui va nous rabaisser. Bien sûr, il nous le dira. Bien sûr que s'il y a un péché dans notre vie, le Seigneur va nous dire que ça, c'est pas bien, il faut arrêter. Bien sûr qu'au fumeur, il va lui dire « Arrête de fumer !» Bien sûr qu'à celui qui a de mauvaises pensées, il va lui dire « Change tes pensées !» Bien sûr qu'à celui qui est peint, qui est radin, il va dire mais ne sois pas aussi attaché à l'argent !» Bien sûr que pour celui qui trompe son épouse ou son époux, bien sûr, il va lui dire « Mais arrête de te comporter comme ça en infidèle !» Bien sûr, et on pourrait là faire toute une liste encore de péchés, peut-être que déjà votre conscience est éveillée sur des points précis. Et bien sûr, Jésus va vous demander de changer de route. Mais lui-même ne va pas s'arrêter à ça. Elle va vous encourager, vous donner les moyens de changer de vie. Il va vous donner les moyens de changer de mentalité. Et ces deux disciples, qui étaient tout tristes, tout penauds, incapable de discerner les choses. Ce n'est pas leur intelligence seulement qui leur a permis de comprendre et d'aller plus loin. Mais ce sont les paroles de Jésus. Notre cœur ne le brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait? Amis, frères, sœurs, comprenez que pour retrouver ce cœur qui brûle, il faut entendre les paroles de Jésus. Que ce soit des paroles lues, que ce soit des paroles prêchées, et plus encore, que ce soit des paroles que Dieu lui-même déposera sur votre cœur par le Saint-Esprit. Des passages extraordinaires où l'Évangile, le Nouveau Testament, nous montre que quand Christ est mort à la croix, ce n'est pas seulement un moment historique qui s'est passé, ce n'est pas seulement un événement historique qui s'est passé. Et la Bible nous explique qu'il y a eu un événement spirituel. Si on devait prendre une image, jusqu'à maintenant, les hommes avaient une soi-disant une connaissance de Dieu par leur conscience. Et plus ils faisaient des efforts dans leur piété, plus ils avaient effectivement une plus ou moins de sensibilité aux choses de Dieu. Mais la Bible nous dit que quand Christ est mort à la croix, c'est comme un voile qui s'est déchiré. C'est comme, vous savez, de temps en temps, il y a des gens comme ça, ils ont l'impression que Dieu existe, ils croient que Dieu existe, ils essayent de prier, mais ils ont l'impression que ça ne dépasse pas le plafond. Certains disent, oh oui, Dieu il existe, mais j'ai l'impression qu'il est étranger de ma vie. Des gens comme ça, ils disent, mais moi j'aimerais bien parler à Dieu, mais j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. La Bible nous dit que celui qui réalise que Christ est mort à la croix pour ses péchés et qui demande pardon pour ses péchés, il y a comme un voile qui est déchiré. Il y a comme une communication qui devient possible. Et ça, c'est ce que la Bible appelle l'année de grâce. Nous vivons un siècle extraordinaire. Pourtant, quand je regarde la télé, on a l'impression que c'est le pire des siècles. Mais non, nous vivons des années extraordinaires parce que pour tous les êtres humains, quel que soit leur âge, que nous ayons 4, 5 ans, ou que nous ayons 90 ans et plus, tant que nous avons encore la faculté de comprendre et de vivre avec notre cœur les choses, alors nous pouvons être en relation avec Dieu. Et la parole de Dieu ne se contente plus d'être une parole que nous pouvons lire, elle ne se contente plus d'être une parole que l'on peut entendre, c'est une parole que l'on peut recevoir sur notre cœur. Et comme c'est bon, comme Jésus nous l'invite, quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Parle à ton Père, car il est là, il entend, il répondra. Et ça, c'est une chose extraordinaire, accessible à tous. On n'a pas besoin de théologie, on n'a pas besoin de formatage religieux, on n'a pas besoin de formulation particulière. Il suffit juste d'être conscient que Dieu est là et de lui parler. Je me souviens à cet ami. Je venais fraîchement de me convertir. Alors je lui disais, mais c'est formidable, Jésus il est vivant, il touche les cœurs, il est celui qui peut te parler. Et lui il avait sa religion quoi, enfin la religion de ses parents qu'il a adhéré, enfin que ses propres parents avaient de leurs propres parents, enfin bref, une sorte d'héritage quoi, mais sans vraiment vie. Et quand il m'entendait parler, il dit mais comment ça se fait que toi il parle et moi il ne parle pas? Je dis mais est-ce que tu veux croire en lui? Est-ce que tu veux vraiment expérimenter cette relation? Ouais, pourquoi pas? Je disais ça. Mais regarde, Jésus l'a dit, entre dans sa chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui est là dans le lieu te le rendra. Attends-toi à ce qu'il te parle, attends-toi à ce qu'il dépose quelque chose sur ton cœur. Et puis je suis parti. 3 jours après, j'appelle mon amie. Oh, elle était toute excitée. Tu sais pas ce qui s'est passé? Je dis non, raconte-moi. Et ben j'ai fait comme tu m'as dit, je suis rentré dans ma chambre. J'ai ouvert la Bible, j'ai lu quelque chose. Après, j'ai fermé les yeux. Je dis, Seigneur, parle-moi. Et là, tu sais ce qui s'est passé? Je dis, non, raconte-moi. Mais là, j'ai senti quelque chose d'incroyable. Une grande fraîcheur, une grande lumière. Quelque chose, j'ai cru que mes poumons allaient exploser. Et ça fait quoi après? Ah, j'ai arrêté. J'ai dit, mais pourquoi t'as arrêté? Mais c'était tellement fort. J'ai dit, mais fallait continuer. Et lui, c'est un grand sportif. Il dit, oh, je crois que j'aurais pu courir des kilomètres. Notre cœur ne brûlait-il pas? Et Jésus, qui révèle Dieu, Dieu qui est amour, est celui qui veut déposer dans votre vie
ces paroles valorisantes, ces paroles qui vont vous faire comprendre que vous êtes véritablement la personne aimée. Parce que valorisante, dans le mot valorisante, il y a la notion de valeur. J'ai rencontré plus de gens sur cette terre qui croyaient qu'ils étaient des nuls, des mauvais, des incapables. Des gens qui disaient « Oh, pff, wow, je ne vaux pas grand-chose, tu sais. Oh, si tu savais, dès que je fais quelque chose, ça ne marche pas. Et puis avec ma sciatique, puis avec ma maladie, et puis avec les déceptions que j'ai eues dans la vie. Oh, si vous aviez vécu tout ce que j'ai vécu, mon pauvre gars. » Et des gens qui vivent comme ça, comme étant peu de valeur. À cause de leur incapacité, à cause de ce qu'on leur a dit, à cause des difficultés de la vie. Mais c'est faux. Vous avez une valeur inestimable. Et on le verra ça par la suite. Vous valez tellement que ce même Jésus, qui allait de lieu en lieu avec des paroles valorisantes, est allé jusqu'au bout de sa logique. Il ne s'est pas contenté de vous dire « Vous êtes bien, vous êtes beau, je vous aime. » Vous avez de la valeur. Il l'a tellement prouvé qu'il a accepté lui-même de mourir pour vous. Mourir pour moi ? Quelqu'un est mort pour moi ? Oui, pour toi aussi. Pour toi aussi. Jésus n'est pas venu mourir pour 2-3 personnes sur cette terre. Il n'est pas venu mourir pour des gens qui étaient déjà parfaits. Il est justement venu mourir pour des gens qui avaient tout simplement de la valeur à ses yeux. Et pour avoir de la valeur à ses yeux, il ne faut pas faire. Il ne faut pas avoir appartenu à une caste spéciale. Il faut tout simplement croire en lui. Lui confier notre être. Parce que nous avons de la valeur. Parce qu'il nous a créés individuellement. Chacun. Dans le ventre de nos mères, il nous a tissés. Pour les uns ou pour les autres, c'est plus ou moins vieux. Mais à l'origine, c'est lui qui nous a tissés. C'est lui qui nous a voulu. Le péché. C'est le péché qui fait croire que nous n'avons pas de valeur. C'est le péché qui nous fait croire que nous n'avons de valeur pour personne. J'ai même entendu des gens qui disent « Oh, bah si je mourrais maintenant, de toute façon, personne ne pleurerait sur moi. » Oh, bah si. Parce que si vous mourrez et que vous n'êtes pas réconcilié avec Jésus, alors c'est l'enfer. Et là, Jésus pleurera encore. Il a pleuré à la croix. De voir des hommes et des femmes au cœur dur, impénitents. Et il pleure tous les jours de ce que des hommes et des femmes lui tournent le dos. Il pleure de ce que des hommes et des femmes souffrent de ne pas se sentir valorisés, aimés, estimés. Alors que lui, il a les bras tendus. Alors que lui, il est mort pour nous sauver, pour nous redonner de la valeur, pour nous redonner de l'estime. Pour nous redonner la vraie estime que nous avons destinée à la vie éternelle. C'est quand même pas rien. Nous sommes destinés à la vie éternelle. Dieu nous aime pour que nous passions l'éternité avec lui. Comment peut-on dire « je n'ai pas de valeur » alors que Dieu lui-même veut que nous soyons avec lui. Dieu lui-même vous aime personnellement. Jésus est plein de délicatesse. Jésus est plein de douceur. Jésus veut vous faire sortir de vos peurs, de vos pleurs, de vos incompréhensions. Jésus ne force jamais personne, jamais. Jamais. Il n'est pas ce Dieu qui contraint, ce Dieu qui oblige. De la même manière qu'il pouvait dire à ses disciples, mais pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? De la même manière qu'il pourra se présenter à votre cœur et vous dire tout simplement « Pourquoi ne veux-tu pas de mon amour ?» Il ne vous le reprochera jamais. « Pourquoi ne veux-tu pas de mon aide ?»« Pourquoi ne veux-tu pas que je change ta vie ?»« Pourquoi es-tu lent à comprendre ce qui est écrit dans les Écritures ?» Jamais il ne vous fera un reproche. Parce que ce n'est pas sa manière de parler. Mais si vous lui faites confiance, et si vous lui dites « Seigneur, viens m'aider. Seigneur, parle-moi. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes de ces paroles qui vont m'éclairer, de ces paroles qui vont m'encourager, de ces paroles qui vont me donner un sens à ma vie, de ces paroles qui vont me donner de l'intelligence pour comprendre pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi, qu'est-ce que tu attends de moi. Alors, vous allez voir que dans la méditation de la parole, elle va vous paraître être un livre rempli de lettres d'amour. Quand vous allez commencer à entendre l'évangile, vous allez percevoir que l'évangile n'est pas un message de condamnation, mais de relèvement. Et quand vous allez commencer à prier chez vous, au-delà des mots, vous allez sentir que c'est le sentiment même du cœur de Dieu qui viendra dans votre cœur.
Que nous aussi, nous apprenions à exprimer ce langage d'amour à ceux qui sont tout autour de nous. Que nous aussi, que Dieu nous aide à dire: Seigneur, moi aussi je veux que ma bouche puisse être une source d'encouragement, une source de bénédiction pour ceux qui sont dans mon foyer, pour ceux qui sont dans mon immeuble, pour ceux qui sont dans mon quartier, dans ma ville, là où je travaille. Seigneur, je ne veux pas avoir à rougir de ce qui sort de ma bouche. Je ne veux pas qu'un jour tu me dises: mais quel est ce flot de paroles qui sortent de ta bouche et qui font que je peux pas être avec toi. Je ne peux pas cautionner ce que tu as été. Je ne peux pas cautionner ce qui est sorti de ta bouche. Si nous avons besoin, nous pouvons demander: Seigneur, aide-moi. Combien d'hommes et de femmes est-ce que j'ai vu être transformés dans leur manière de parler le jour où ils ont donné leur cœur au Seigneur? Des gens qui n'étaient pas capables de formuler une phrase sans une grossièreté dedans. Des gens qui passaient leur temps à mal parler de leurs voisins, de leurs collègues de travail, du patron, et qui, le jour où ils ont accepté le Seigneur Jésus, étaient des bouches de bénédiction, d'encouragement. Je voudrais juste terminer sur cette parole qui se trouve dans Ésaïe chapitre 50, verset 4. En fait, ce verset-là, c'est un verset qui parle de Jésus prophétiquement. Ésaïe, c'est 800 ans avant Jésus-Christ. Cet homme, il a écrit. Et quand il écrit là, il est en train de parler prophétiquement du Messie, qui est Jésus. Mais cette parole-là peut être aussi pour nous comme un exemple. On y lit en Ésaïe, chapitre 50, verset 4. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amis, si vous n'avez pas encore vécu cette expérience, si vous avez besoin d'être relevé, alors allez à Jésus. Il aura cette langue exercée pour vous relever, pour vous redonner, comme à ses deux disciples, cette nouvelle vigueur. Et que nous aussi, nous puissions formuler cette prière: s'il te plaît, donne-moi cette langue exercée afin que je puisse relever celui qui est abattu. Amen.